Alors, si vous voulez bien, on va continuer cette lecture de la question 2 de la Somme. Où donc saint Thomas posait la question de savoir si l'existence de Dieu était évidente par elle-même. Alors, petite réflexion, vous voyez, si pour saint Thomas, c'est pas évident. Et comme conséquence pratique, ça veut dire que des gens qui ont beau être très intelligents, ben, peuvent très bien achoper devant le mystère de Dieu. Vous pouvez comprendre que l'athéisme, à moins que ce soit un refus affectif, n'est pas signe de débilité intellectuelle. Et donc ne traitez pas les athées comme de profonds débiles. Et souvent, on a ce réflexe hein, de rejet par rapport à l'athéisme. En comprenant que souvent dans l'athéisme, il y a une recherche qui est vraie. Parce que c'est pas évident de dire que Dieu existe. Et donc, l'important dans le contexte de l'athéisme, c'est comprendre ce sur quoi porte le rejet de Dieu. Et c'est souvent un rejet qui porte sur un manque de lumière intellectuelle. Et que ce soit l'athéisme de Jean-Paul Sartre, ou même l'athéisme de Freud, c'est un athéisme beaucoup plus pratique, quant aux dimensions intérieures de l'homme, et bien je crois qu'on a besoin de répondre avec intelligence et pas simplement avec mépris. Mais ça me semble important d'essayer de se mettre à l'écoute hein, de l'athéisme contemporain, oui, pour répondre à travers l'athéisme contemporain au désir de l'homme. Parce qu'il est bien évident qu'à travers l'athéisme, oui, l'homme recherche quelque chose. Si c'est une recherche qui n'est pas éclairée, nous avons besoin de l'éclairer. Et pas dire systématiquement, bon, Freud, c'est complètement idiot. Ou Jean-Paul Sartre, c'est complètement idiot. Ou Nietzsche, même chose, vous voyez. On a besoin de découvrir ce sur quoi portent leurs difficultés pour leur apporter une lumière supplémentaire. Et je crois que ça doit être un souci, hein, vous voyez. Ça doit être le souci du croyant, ça. Dans la lumière de la révélation, essayer d'apporter ce complément de lumière à l'homme. Et donc ça réclame de notre part, vous voyez, de faire ce chemin pour pouvoir permettre à d'autres de le faire. D'où une nécessité encore plus grande de se rendre intelligent dans cette recherche difficile et ardue de l'existence de Dieu. Alors cependant, personne ne peut penser le contraire d'une évidence, comme le fait voir le philosophe en ce qui concerne les premiers principes de la démonstration. Or, on peut penser le contraire de cette proposition, Dieu est, puisque d'après le psaume, l'insensé a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc cette proposition n'est pas évidente. Oui, ce qui est évident doit éclater aux yeux de tous. Vous voyez, on voit ça, on pourrait faire le parallèle avec la foi. Et la différence entre l'évidence et la certitude. Pour moi, ce qui m'est donné dans la foi n'est pas objet d'évidence. Cependant, par la charité qui me pousse à adhérer ce que Dieu me dit dans la révélation, c'est objet de certitude. Vous voyez, c'est toute la différence entre le vrai et le sincère. Vous voyez, le sincère, c'est le vécu affectif de la vérité en moi. Tandis que le vrai, c'est l'adéquation de ce que je dis de la réalité par rapport à cette réalité. Alors, vous voyez, la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il y a un moyen pour l'intelligence d'atteindre directement Dieu? Parce que, d'après saint Thomas, si j'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière, oui, même par le point de vue philosophique, l'intelligence est incapable d'atteindre directement Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'il montrera dans l'article suivant, le point de vue de la démonstration a posteriori. C'est une démonstration qui est très imparfaite, parce qu'elle ne me conduit pas à la saisie du principe. Elle me saisit au dévoilement du principe par ses effets. Donc c'est quelque chose de très imparfait. Et donc il est normal que même après avoir travaillé toute sa vie le problème de l'existence de Dieu, l'intelligence ne peut pas être satisfaite. Vous voyez, à partir du moment où vous dites « ça y est, j'ai compris, je sais que Dieu existe parce que selon la troisième voie, le lien entre le contingent et le nécessaire, ça m'a semblé tellement lumineux que le contingent me fait poser le nécessaire dans la lumière du principe de causalité finale », et l'axiome de non-régression à l'infini. Maintenant, j'ai compris. Pour moi, c'est évident. Dieu existe. Vous voyez, je ne crois pas que ce soit un résultat très juste. Du fait du mode hybride de connaissance. Même en ayant découvert à travers les cinq voies de saint Thomas, l'intelligence reste en soif de Dieu. Parce que justement, le propre de l'intelligence, c'est de vouloir connaître la cause telle qu'elle est. Et ça, saint Thomas le montrera, c'est pas possible pour l'intelligence humaine. Quant à l'essence divine. Vous voyez, pensez, il y aurait un parallèle à faire avec l'adoration. Est-ce que par l'adoration, vous atteignez immédiatement Dieu? Et bon, au point de vue religieux, non. Au point de vue religieux, vous tendez vers Dieu. Vous voyez, le seul moyen d'atteindre immédiatement Dieu, c'est par la grâce, c'est par la foi. Vous voyez, seule la foi et le contact immédiat de l'intelligence humaine avec Dieu. Et ça comme nota bene. Alors, une chose peut être évidente de deux façons. Soit en elle-même, mais non pas pour nous. Soit la foi en elle-même et pour nous. En effet, une proposition est évidente par elle-même du fait que le prédicat y est inclus dans l'idée du sujet, comme lorsqu'on dit « l'homme est un animal », car l'animalité fait partie de la notion même de l'homme. Si donc, il est à la connaissance de tous que le prédicat soit tel et que le sujet aussi soit tel, la proposition qui les assemble sera pour tous évidente. C'est ce qui a lieu dans les premiers principes de la démonstration, dont les termes « communs à tout ce qu'on nomme » ne peuvent être ignorés de personne, comme « être » et « non-être »,« tout » et « partie » ou « autre semblable ». Mais s'il arrive que quelqu'un ignore la nature du prédicat et celle du sujet, la proposition prise en elle-même n'en sera pas moins évidente, mais elle ne le sera plus pour ceux qui ignorent ainsi le sujet et le prédicat de la proposition. C'est pour cette raison, dit Boèce, que certaines conceptions communes de l'esprit ne sont pourtant évidentes que pour les savants. Par exemple, que les choses immatérielles n'ont pas de lieu. Il y a deux modes d'évidence. Soit quant à la réalité, soit quant à nous qui recevons la réalité. Je dis donc que cette proposition « Dieu est », autant qu'il est en elle, est évidente par elle-même, car le prédicat y est identique au sujet. Dieu en effet est son être même, comme on le verra plus loin. Mais comme nous ne savons pas, nous, ce que Dieu est, cette proposition pour nous n'est pas évidente. Elle a besoin d'être démontrée par ce qui est mieux connu de nous, quoique moins évident de sa nature, à savoir par les effets de Dieu. Mais en deux mots, ça veut dire que il y a deux manières de connaître une réalité. Soit je la connais en elle-même, soit je la connais par ses effets, et ses effets vont me permettre de connaître davantage cette réalité. C'est ce que saint Thomas fait quand il parle du quod nos et du secundum se. En comprenant que j'ai besoin d'aller au plus connu en soi par ce qui est plus connu pour moi. Vous voyez, on voit ça au point de vue scientifique. Hein. On ne s'attaque pas d'abord aux grandes théories les plus pointues, mais on commence par le commencement. Et le commencement, c'est ce qui est le plus connu pour moi. Et à partir de ce qui est le plus connu pour moi, je m'achemine à ce qui est le plus connu en soi. Oui, ceci pour l'existence de Dieu, comme je n'ai pas une expérience immédiate de Dieu. La seule expérience que je peux avoir de Dieu, c'est par ses effets. Et ça, ça est connu par tout le monde. Donc je peux comprendre que je remonte à la cause par la connaissance que j'ai des effets de cette cause. Bon, ça, je crois que c'est pas très compliqué. Hein. Mais c'est évident qu'au point de vue de l'intelligence humaine, on va du plus connu pour nous-mêmes au plus connu en soi. Alors, vous voyez, la grande question, c'est pour ça que l'article 2 est très lié à ça, c'est oui, ce mode de connaissance, que va-t-il être? Est-ce que ça va être une preuve, comme au point de vue mathématique? Ou est-ce que ça va être une démonstration? Et quel genre de démonstration? Oui, une preuve mathématique me conduit à l'évidence, tandis qu'une démonstration ne me conduit pas automatiquement à l'évidence. Alors, vous voyez, c'est ce que va souligner saint Thomas dans l'article 2. Oui, je passe consciemment les objections. Je crois qu'on y a déjà répondu, au moins dans l'ensemble, pour essayer d'attaquer le plus tôt possible l'article 3, qui est le vif du sujet. Mais cela ne vous empêche pas, puisque vous avez le texte, de relire cet article. Voyez, dans cet article, que va faire saint Thomas? Oui, saint Thomas déjà va essayer de nous faire comprendre. Oui, du moins, nous, lecteurs de saint Thomas, on va essayer de comprendre que, voyez, la preuve géométrique de Dieu, de Descartes, c'est pas du tout ce que le théologien cherche. Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas arriver à ce genre de démonstration. Donc saint Thomas va faire une distinction entre une démonstration qu'il appelle démonstration propter quid. Alors là, excusez, mais bon, c'est le charabia du théologien, mettez-vous à l'écoute, vous comprendrez, c'est relativement simple. Une démonstration quia. Vous faites toujours tout de suite la distinction entre le propter quid et le quia. Et vous voyez, saint Thomas essaie de montrer que la démonstration propter quid, elle part du principe pour saisir les propriétés. Oui, je vous explique avant, comme ça vous verrez, le texte est lumineux. Et à l'inverse, la démonstration quia part des effets pour découvrir la cause. Et au point de vue de notre intelligence rationnelle, la démonstration la plus parfaite, qui satisfait le plus de notre intelligence, c'est la démonstration propter quid, en tant que dans la lumière du principe, je saisis les propriétés. On pourrait dire que c'est une démonstration qui est proprement scientifique. Mais je vais donner un petit exemple au point de vue métaphysique. Vous voyez, au point de vue métaphysique, quand vous travaillez les catégories d'Aristote, vous voyez, il y a 10 catégories. Et c'est cet exemple pour les frères, puis aussi pour les sœurs. Vous voyez, quand vous êtes en train de suer sur les trois premières catégories, vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous êtes souvent désolé en disant, bon, c'est purement empirique comme distinction et ça veut rien dire. Mais cependant, dès que vous avez saisi le principe formel qu'on appelle l'ousia, et vous regardez dans cette lumière ce que sont ces catégories, tout de suite, ça devient lumineux. Oui, ça, c'est ce qu'on appellerait, d'une certaine manière, oui, le regard des, oui, regarder les propriétés dans la lumière du principe. Il y a quelque chose de semblable. Ça a l'air lumineux pour vous. Mais bon, ça le deviendra, vous savez, c'est en travaillant qu'on apprend à... Tandis que, oui, la démonstration quia a quelque chose d'imparfait parce que elle ne me fait pas découvrir la cause en tant que telle. C'est simplement un dévoilement de la cause. Oui, c'est le fameux exemple qu'on donne, l'exemple de la fumée et du feu. Il y a de la fumée, vous dites il y a du feu. Ça, c'est quel genre de démonstration? Faut jouer un petit peu avec ça, faut être un peu... Quia, très bien. Et ben, vous voyez, c'est au sens strict, ça ne satisfait pas l'intelligence si vous ne voyez pas le feu. Parce que vous n'avez pas une connaissance immédiate de la cause. C'est une connaissance médiatisée. Oui, par les faits, vous dévoilez une cause. Selon l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Ben, il y a un peu la même chose avec Dieu, vous voyez. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pensez à ça hein, quand vous regardez la création. Alors, voyez, on va lire ce que dit saint Thomas. Il y a deux sortes de démonstrations. L'une qui invoque la cause, le pourquoi des choses, et cette espèce de démonstration s'appuie sur ce qui est de soi antérieur. Une autre fait appel aux effets. Elle part de l'expérience. Et bien qu'elle soit ainsi a posteriori, ce dont elle part est premier par rapport à nous. C'est pourquoi toutes les fois qu'un effet nous est plus apparent que sa cause, nous recourons à lui pour connaître la cause. Or de tout effet, quel qu'il soit, on peut démontrer qu'il a sa cause propre, à supposer que les effets de cette cause nous soient eux-mêmes plus manifestes. Car l'effet étant dans la dépendance de la cause, dès que l'effet est posé, nécessairement la cause préexiste. Donc l'existence de Dieu, selon qu'à notre égard elle n'est pas évidente, peut être démontrée par ses effets de nous connus. Voilà le chemin que va prendre saint Thomas. Ce qui est connu pour moi de Dieu, ce sont ses effets. Alors vous allez me dire, j'espère que vous avez eu tous cette réflexion, hein, si vous êtes un petit peu philosophe, dire mais c'est le serpent qui mord sa queue. Parce que qui me dit que ce sont les effets de Dieu? Non? Ça vous... Ah, vous voyez, c'est toute la différence entre le philosophe et le théologien. Vous êtes perdu là?
Complètement.
Bon, ça va venir, vous inquiétez pas. Ah pardon, on est article, voyez, excusez-moi, on est question 2, article 2. Sur la petite feuille, c'est la première page ou la seconde? La seconde page. La troisième. Alors, vous voyez, c'est toute la différence entre le regard du théologien et le regard du philosophe. Mais ce que je vous disais juste, vous voyez, avant ce cours, dans les questions-réponses, c'est comprendre que le regard du philosophe, il part à partir de son expérience. Et dans la lumière de la personne humaine, il se pose la question de savoir, est-ce que la personne humaine est la réalité la plus parfaite que je puisse expérimenter? Ça, c'est l'interrogation philosophique. L'interrogation théologique est complètement différente. Le théologien, dans sa foi, reçoit l'existence de Dieu. Pour lui, Dieu existe, c'est bien évident. Et la question qui se pose, c'est comment l'intelligence peut rejoindre Dieu. Donc d'un côté, il sait que Dieu existe, il sait que toute réalité est l'œuvre de sa création, donc il va essayer de comprendre comment l'intelligence va pouvoir rejoindre ce créateur. Et le seul moyen pour lui, c'est à travers les effets de ce créateur. Puisque la seule chose que Dieu manifeste à nos yeux, c'est l'œuvre de sa création. Donc vous voyez, ça c'est un souci qui est très théologique et qui demande au point de départ un acte de foi. C'est pas du tout philosophique comme démarche. J'aurais pas du tout cette démarche en philosophie. C'est important de comprendre parce que si je lis saint Thomas comme un philosophe, mais ça va être très frustrant pour l'intelligence. Parce que je vais me dire, mais il y a un présupposé qui est un a priori. Qu'est-ce qui me permet, au point de vue philosophique, de dire que telle ou telle réalité, c'est un effet de Dieu? Absolument rien. Et je peux dire ça simplement dans la lumière de Dieu. Et donc ça, c'est, vous voyez, c'est le souci du théologien qui essaie de raccorder l'intelligence humaine avec Dieu. Et ce n'est pas du tout le souci du philosophe. Et le souci du philosophe, c'est celui que j'ai essayé de vous expliquer, hein, à travers la multiplicité de la personne humaine, et c'est de trouver une certaine unité. Vous voyez, important de comprendre les deux points de vue complètement différents. C'est pour ça, hein, l'exemple que vous donniez tout à l'heure, l'exemple de la plante. Vous voyez, on arrose la plante et on voit qu'elle pousse et on dit « Dieu est grand ». C'est sûr que, vous voyez, on doit avoir en nous une certaine admiration de la création. Vous voyez, quand on voit au printemps les bourgeons pousser, quand on voit les papillons naître et mourir, et ainsi de suite, il y a quelque chose qui en nous appelle une sorte de romantisme par rapport à la création qui doit éveiller notre intelligence. Et ça, c'est très grand. Il ne faut pas le perdre. Parce que bien souvent, on n'est plus capable de... Oui, c'est... Très souvent, on perd un contact complètement admiratif par rapport à la réalité. Vous voyez, on m'a fait cette réflexion il n'y a pas longtemps. Vous voyez, on demandait à un enfant de dessiner un poisson. L'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Un rectangle. Vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est souvent comme ça qu'on représente la réalité. Mais le poisson, c'est le poisson pané c'est le poisson pané que le pauvre gamin a dû manger toute sa vie. Il a jamais vu un poisson. Et qu'est-ce qu'il représente? On lui demande de dessiner un poisson, un rectangle. Parce que c'est le poisson pané. Et bien vous voyez, souvent l'intelligence, vous voyez, c'est le propre de la civilisation sous cellophane. Vous voyez, on sort tout du congélateur, on met ça dans le micro-ondes. Et on oublie complètement le lien avec le réel. Ça, faut reconnaître. Et c'est pas du tout drôle, parce que vous emmenez un gamin dans la forêt, il va s'ennuyer au possible, et il va demander son jeu électronique qui fera du bruit, parce que s'il y a du silence, il va s'ennuyer, il aura peur. Et vous voyez, donc c'est important de réveiller cet aspect admiratif, cet aspect de l'intelligence qui s'émerveille devant des choses qui sont belles. Mais cependant, faut pas trop glisser de ça à l'existence de Dieu. Il y a une petite nuance. Dire que ça suscite en moi une admiration, et que dans la lumière de ma foi, je reçois ce que je regarde comme un effet de la création, tout à fait. Mais il faut être lucide que c'est dans la lumière de ma foi. Sauf si je suis un grand philosophe, et que c'est vraiment dans la lumière de mon expérience, de la découverte de l'existé de Dieu. Vous voyez, c'est important, cette lucidité intellectuelle, hein, pour une hygiène de l'intelligence. pas trop confondre l'intelligence et la foi. Essayer de distinguer. Essayer de distinguer ce qui en nous est objet de foi et ce qui en nous est objet d'expérience. Et donc est lié à notre intelligence. Oui, il y a la même chose pour l'enseignement. Mais si j'ai un maître qui est tellement sage, qui arrive à un enseignement qui est tellement pénétrant, que cet enseignement, je ne peux pas faire autrement que de le recevoir dans la foi. Parce que je n'ai pas l'expérience humaine, je n'ai pas l'expérience philosophique de ce maître. Et donc il m'enseigne certaines choses, et ces choses, je les reçois dans la foi. Et il faut être lucide que je les reçois dans la foi. Je ne les reçois pas en lien immédiat avec mon expérience. Mais quand vous pensez au cours d'un cours sur un jugement de sagesse, la différence entre celui qui enseigne un jugement de sagesse et l'étudiant qui suit le jugement de sagesse. Il y a deux points de vue complètement différents. Il y en a un qui est dans la clairvision et l'autre qui est dans la foi. Celui qui est dans la clairvision, c'est à travers sa découverte personnelle de l'existé de Dieu, il regarde la réalité. Puis vous, à travers ce que vous avez essayé de comprendre des fondements métaphysiques, de la découverte de l'être premier, puis de ce que vous connaissez de la réalité, vous essayez de comprendre comment ce qu'on vous dit peut coïncider avec ce que l'imagination que vous avez de l'être premier. Et vous voyez, c'est important d'être lucide. Parce que sinon, vous voyez, je vais confondre le bien de l'intelligence et l'autorité du maître. Le bien de l'intelligence, c'est pas l'autorité du maître, le bien de l'intelligence, c'est la réalité. C'est le vrai. C'est pas le dire de quelqu'un. Le dire de quelqu'un doit me conduire à mon bien, qui est le vrai. Et donc ça demande une certaine lucidité pour faire la part des eaux. Et on voit ça sur l'autoroute, hein, et quand on monte sur Paris, oui, la ligne de séparation des eaux. Il faut faire de temps en temps de la séparation des eaux entre ce qui relève de notre expérience et ce qui relève du dire d'un autre. Alors ça ne veut pas dire que le dire d'un autre est faux, au contraire, c'est ce qui nous fait grandir. Mais cependant, notre travail, c'est de courir après celui qui dit quelque chose. Voilà. C'est pour ça qu'il faut accepter de courir après saint Thomas ou à travers les maîtres que nous avons. Alors maintenant, nous abordons la chose qui est sûrement la plus difficile. Alors c'est pour ça que je vous demande de pâtir dans la joie et la délectation, en sachant qu'il n'y a plus que 20 minutes. Mais avant, vous voyez, je voudrais vous lire une objection de l'article 2 qui a quand même son importance. L'existence de Dieu est un article de foi. Or, les articles de foi ne se démontrent point, car la démonstration engendre la science et la foi est relative à ce qui n'apparaît point, au dire de l'apôtre. Oui, si je traduis cette objection, j'ai la foi, mais ça me suffit. Comprenez, qu'est-ce que vous me faites, vous? Maintenant, je ne comprends plus rien, je sors, j'ai des tas d'interrogations, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, la foi, ça me suffit. Oui, si vous remplacez la science par la foi, mais c'est la catastrophe. Vous vous rendez compte? Eh bien, vous voyez, il y a une petite distinction à faire entre ce qui est objet formellement de foi et ce qui est objet relativement de foi. Ce qui est objet formellement de foi, c'est ce qui touche la révélation chrétienne. Ce que l'homme ne peut voir et ne peut atteindre par lui-même. Cependant, il y a une petite chose qu'on appelle les preambula fidei, qui sont les réalités que l'homme par lui-même peut atteindre. Donc l'homme est assez intelligent, vous voyez, pour dire, vous voyez, j'ai pas besoin de la foi pour dire que je crois en Dieu. D'ailleurs, si je suis intelligent, je dis plus je crois en Dieu, Dieu existe. Je l'ai rencontré. Vous voyez, dirait un certain auteur. Et bien, en comprenant que ces préambules à fidei, c'est l'intelligence qui tend vers sa source. Et donc l'intelligence qui reconnaît sa source. Et ces préambules à fidei, quels sont-ils? C'est Dieu existe. C'est l'affirmation de l'existence de Dieu. C'est une connaissance de la création. Donc du lien entre Dieu et moi. Dieu est mon créateur. C'est une connaissance de la conservation. Dieu n'est pas simplement mon créateur. Dieu, en créant, s'engage. Il conserve ce que je suis. Et de mon côté, c'est une connaissance que j'ai une âme immortelle. Alors le problème, c'est tellement difficile, du moins tellement difficile, ça demande une certaine souplesse de l'intelligence, qu'il vaut mieux de temps en temps que ce soit pour certains objets de foi. Mais cependant, ce n'est pas parce que c'est objet de foi que les efforts de l'intelligence sont vains. Au contraire, Voilà, je vois une petite nota bene, qui me semble capitale. Alors, maintenant, Dieu est-il ? Dieu n'est pas, car de deux contraires, si l'un est infini, l'autre est détruit d'une façon complète. Or, quand on prononce le nom de Dieu, on l'entend d'un bien infini. Donc, si Dieu existait, il ne se trouverait plus de mal. Et il y a du mal dans le monde. Alors, ça, je crois que c'est la grande objection. On l'entend très souvent, hein, l'objection du mal quant à l'existence de Dieu. Vous voyez, on entend ça quand il y a une catastrophe, hein, dans un milieu familial, quand telle ou telle personne est affectée de telle ou telle calamité, ou telle calamité naturelle. On dit, mais comment se fait-il que Dieu permette ça ? Est-ce qu'il existe ? Et ça, il faut reconnaître que oui, le mal est objet scandale pour l'intelligence. Alors, est-ce qu'à cause de l'objection du mal, je dois affirmer que Dieu n'existe pas ? Et est-ce que c'est sur le même rapport ? Alors, deuxième objection, pourquoi cette hypothèse ? Ce qui peut être accompli par des principes en petit nombre ne met pas en jeu pour se produire de plus nombreux principes. Or, il semble bien que tous les phénomènes observés dans le monde puissent être réalisés par des principes indépendants de Dieu, sans supposer l'existence de Dieu. Car ce qui est naturel a pour principe la nature, et ce qui est libre a pour principe la raison humaine, ou si l'on veut, la volonté. Il n'y a donc nulle nécessité de supposer que Dieu soit. Vous voyez, quant à mon expérimentation de la réalité a une certaine autonomie. Hein. Vous voyez, il ne faut pas immédiatement que je raccorde la plante qui pousse à Dieu. Il ne faut pas immédiatement que je raccorde, vous voyez, le mouvement à un premier moteur. Vous voyez, je vois que vous voyez, la réalité a une certaine autonomie. C'est, vous voyez, derrière, on verra le fameux problème de la cause efficiente. Dans l'ordre de la cause efficiente, ben je vois que les choses ont une autonomie, ça c'est sûr. Et donc, je n'ai pas besoin de poser quelque chose qui soit premier. De toute manière, si je cherche, je n'arriverai jamais à trouver un premier dans l'ordre de la cause efficiente. Parce que ça touche le devenir. Donc, vous voyez, à partir de là, ben, il n'y a pas besoin, Dieu n'a pas de place là-dedans. Vous voyez, par rapport à l'homme, prenez le cas de... Vous voyez, il y a un cas parallèle avec l'âme humaine. Vous voyez, la connaissance qu'on a du corps de l'homme au point de vue médical, au point de vue de la biologie, ben, il n'y a pas de place pour un principe. Tout s'explique, ça s'explique par des réactions moléculaires et ainsi de suite. Au point de vue de l'univers, mais tout s'explique au point de vue scientifique. Donc pourquoi chercher Dieu ? Ça ne sert à rien. Puisque tout a un fondement rationnel, tout a un fondement mécanique. Donc ça ne sert absolument à rien d'essayer de trouver Dieu comme celui qui permet le devenir. Il n'y a pas grand intérêt. Voilà l'objection. Vous êtes d'accord là-dessus ? Il n'y a pas d'intérêt. Bon, s'il n'y a pas d'intérêt, on va lire ce que dit saint Thomas. Alors l'Exode dit en la personne de Dieu, « Je suis celui qui suis ». Alors vous corrigez le français pour les latinistes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, mais je ne veux pas souligner ça. Oui, ça commence comme ça, la preuve de l'existence de Dieu. Depuis le début, j'essaie de vous montrer que ce n'est pas une preuve, alors vous voyez, traduisez. Alors, la preuve de l'existence de Dieu peut être obtenue par 5 voies. Vous voyez, il y a 5 modalités qui vont permettre à l'homme de comprendre le lien qu'il y a entre l'intelligence et Dieu. Et vous voyez, ces 5 modalités, si vous êtes attentif, ils reprennent toutes les modalités de la personne humaine. Vous voyez, pour faire le parallèle avec ce que je vous ai dit tout à l'heure en philosophie. Comprendre que, vous voyez, Saint Thomas essaie de comprendre qu'il y a un lien entre Dieu et le monde physique par le mouvement. Il y a un lien entre Dieu et le monde du vivant par le point de vue de l'opération vitale. Il y a un lien entre Dieu en tant qu'être premier et l'être. Par le point de vue de l'acte. Il y a un lien entre Dieu et le facere, la réalisation dans l'homme, et par le point de vue du bien. Vous voyez, ce sont les cinq voies que j'ai essayé de vous tracer tout à l'heure quant à la personne humaine qu'on pourrait retrouver ici. Alors cependant, saint Thomas les aborde d'une manière très particulière. Alors c'est ce qu'on va voir. La première, donc la première voie, est la plus manifeste, et celle qui part du mouvement. Il est évident, nos sens nous l'attestent, que dans ce monde, certaines choses se meuvent. Or, tout ce qui se meut est mu par un autre. En effet, rien ne se meut qu'autant qu'il est en puissance par rapport à ce que le mouvement lui procure. Au contraire, ce qui meut ne le fait qu'autant qu'il est en acte. Car mouvoir, c'est faire passer de la puissance à l'acte. Et rien ne peut être amené à l'acte autrement que par un être en acte, comme un corps chaud actuellement, tel le feu, rend chaud actuellement le bois, qui était auparavant chaud en puissance, et ainsi le meut et l'altère. Or, il n'est pas possible que le même être, envisagé sous le même rapport, soit à la fois en acte et en puissance. Il ne le peut que sous des rapports divers. Par exemple, ce qui est chaud en acte ne peut pas être en même temps chaud en puissance, mais il est en même temps froid en puissance. Il est donc impossible que sous le même rapport et de la même manière, quelque chose soit à la fois mouvant et mu, c'est-à-dire qu'il se meuve lui-même. Donc si une chose se meut, on doit dire qu'elle est mue par une autre. Que si ensuite la chose qui meut se meut à son tour, il faut qu'à son tour elle soit mue par une autre, et celle-ci par une autre encore. Or on ne peut ainsi procéder à l'infini, car il n'y aurait alors pas de moteur premier, et il s'ensuivrait qu'il n'y aurait pas non plus d'autres moteurs, car les moteurs seconds ne meuvent que selon qu'ils sont mus par le moteur premier, comme le bâton ne meut que manié par la main. Donc il est nécessaire de parvenir à un moteur premier qui ne soit lui-même mu par aucun autre, et un tel être, tout le monde le reconnaît pour Dieu. C'est d'une clarté éblouissante. Vous voyez, pour un petit peu, je ferai ça simplement pour la première voie, essayer de la décortiquer un petit peu pour voir un peu et la manière dont saint Thomas réfléchit. Et si vous êtes attentif, oui, saint Thomas fait cinq petites distinctions. La première, c'est toutes les choses sont mues. Ça, c'est votre expérience. Toute réalité est en mouvement. Après, il implique une petite conclusion. Tout ce qui est mu par un autre. Après, troisième petite conclusion, et dans l'ordre de la motion, on ne peut remonter à l'infini. Oui, on ne peut remonter à l'infini dans l'ordre de la dépendance d'un autre. À partir de la conclusion, si vous regardez un peu bien le texte, il existe un premier moteur. Et ce premier moteur, vous voyez, cinquième partie, ce que tout le monde appelle Dieu. Oui, et ça c'est un peu la structure logique de son argumentation. Toute réalité est mue. La réalité est mue par un autre. Dans l'ordre de la dépendance par rapport à un autre, on ne peut pas remonter à l'infini. Donc il est nécessaire de poser un premier moteur. Mais logiquement, ça tient. Mais cependant, ça présuppose beaucoup de choses derrière. Oui, la première chose quant à l'expérience. C'est comprendre que quelle est mon expérience de la réalité en mouvement ? Cette expérience de la réalité en mouvement, c'est découvrir à travers toute réalité que j'expérimente le passage d'un état à un autre. Ça, c'est relativement simple. Ça, c'est l'expérience pratico-pratique que je fais tous les jours. Cependant, saint Thomas voyez, dans la lumière de cette expérience, constate que tout, voyez, tout ce qui est mu implique la motion d'un autre. Et dans l'ordre de la dépendance à cet autre, je ne peux pas remonter à un premier qui impliquerait encore un premier. Il y a un processus qu'on appelle de non-régression. Et chose très importante, comprendre que ce principe de non-régression, c'est pas dans l'ordre, alors là c'est la petite distinction qu'il faut essayer de saisir, n'est pas dans l'ordre de la cause efficiente. C'est pas de vous dire, vous voyez, on pourrait comprendre ce que dit saint Thomas comme dans l'ordre de la cause efficiente. Comprendre la première voie de saint Thomas comme, vous voyez, un premier qui pousserait tout le monde. Vous voyez, il y a des mouvements, puis il faut qu'il y ait le premier qui bouge pas et qui pousse tout le monde. C'est-à-dire, je vais regarder, alors je vais d'abord prendre ma petite expérience. Alors, on va prendre l'expérience de l'herbe qui pousse. Puis à partir de ce moment-là, je vais essayer de découvrir ce qui permet à l'herbe de pousser, le facteur qui permet à l'herbe de pousser vient de telle réalité, ainsi de suite, et je vais essayer de remonter à telle ou telle réalité première. Mais l'intelligence ne pourra jamais atteindre ce premier. Parce que ce premier nécessite toujours quelque chose d'autre. Oui, quand vous avez, là je suis absolument inculte dans l'ordre de la biologie, mais si vous avez, oui, pourtant on a des biologistes ici, ils devraient parler, mais vous voyez, si on a une connaissance de la réalité dans l'ordre biologique, je vois que tout fait appel à un procédé qui demande d'être expliqué par un autre. Et je n'atteins rarement qu'un premier. Un premier qui est toute son indépendance. Donc qui implique une autarkeia parfaite. Comme un premier moteur. Donc vous voyez, la manière dont je dois comprendre ça, c'est par rapport à la cause finale. Et non pas la cause finale comme cause finale en tant que telle, mais dans la lumière de ce petit principe tout bête que ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Et vous verrez que ce principe, nous le retrouverons tout au long des cinq voies. Oui, la première voie, la deuxième voie et la troisième voie sont exactement au point de vue de l'armature, sont constituées de la même manière. D'abord l'expérience. Après l'expérience, vous voyez, le lien par rapport à l'autre et le principe de non-régression à l'infini. Et comprendre que ces trois voies, je ne peux pas les regarder dans la lumière de l'efficience. Je peux simplement les regarder dans la lumière de l'être en acte. Et c'est très important parce que, vous voyez, saint Thomas donne un exemple au point de vue du devenir. Et il peut être très trompeur, cet exemple, au point de vue du devenir. Parce que, vous voyez, je dois comprendre le principe de causalité finale, non pas quant au devenir, mais quant à l'être en tant qu'être. Donc au point de vue métaphysique. Et comprendre que, nécessairement, il y a une antériorité de l'acte sur la puissance. Et que la puissance est d'une certaine façon postérieure. Vous voyez, pour comprendre dans toute sa véracité ce principe, je ne peux pas le regarder au point de vue de l'efficience, au point de vue du devenir. Je dois le regarder comme le primat de l'être en acte sur l'être en puissance. Et comprendre que quand saint Thomas parle de tout ce qui est mu, je dois le regarder sous l'angle de ce qui est et non pas sous l'angle de ce qui devient. Et vous voyez, c'est très important de comprendre l'outil qu'utilise saint Thomas. Je crois que c'est cet outil qui est la clé de toute la lecture de cette question. Vous voyez, cet outil qui est le principe de causalité finale. En comprenant que, oui, pour le théologien, il a le point de départ et le terme. Par quoi va-t-il joindre le point de départ et le terme? Qu'est-ce qui va lui permettre de rejoindre son expérience de la réalité comme effet de la création et Dieu comme créateur? Et donc, ce qu'il faut tester, c'est l'outil philosophique qui va permettre aux théologiens de faire ce lien. Bon, quant à cet outil philosophique, on y reviendra demain. Alors, on va essayer de reprendre notre effort. En tenant compte de certaines objections qui m'ont été faites. Alors, ces objections portant sur l'aspect de la possibilité d'une certaine difficulté pour certains d'entre vous. Alors, pour ça, je voudrais d'abord vous rappeler l'intention. Et l'intention de ce que je vous disais au début, et la différence entre une catéchèse et une recherche théologique. Une catéchèse se fait en vue de la communication. Donc en vue de communiquer ce que le mystère chrétien vous a annoncé. Vous voyez ce qu'on appelle dans les actes des apôtres le kérigme, donc l'annonce de l'évangile. Cette annonce de l'évangile se base sur le fait du Christ, et le Christ est ressuscité et nous vous l'annonçons. Vous voyez, la démarche théologique est un peu différente. Dans le sens où, oui, quand je fais une réflexion théologique, ce n'est pas avant tout pour le communiquer aux autres. C'est avant tout une réflexion personnelle. Et cette réflexion personnelle, c'est la réflexion du croyant. Non pas celui qui veut engranger une connaissance afin de sortir une fiche pour dire, bon ben voilà ce qu'on peut dire sur tel sujet. Mais avant tout le croyant qui se met à l'école de la parole de Dieu. Et se mettant à l'école de la parole de Dieu, essaie d'avoir une certaine compréhension de cette parole de Dieu. Alors il me semble qu'il serait nécessaire pour nous de relire les deux passages que je vous ai cités, hein, le passage du chapitre 13 du livre de la Sagesse et le verset 20 du chapitre 1 de l'Épître aux Romains, où justement la révélation m'annonce que par la manifestation de la création, je peux remonter jusqu'au Créateur. Et donc, vous voyez, ça, je dois le recevoir dans la foi, en tant que, à travers ça, c'est Dieu qui m'enseigne. Donc si je reçois ça, je dois me poser la question, mais comment faire à travers l'effet créé pour remonter jusqu'à mon Créateur? Mais voilà le souci théologique. Et j'ai essayé de vous montrer que le souci philosophique est complètement différent. Oui, le souci philosophique ne part pas de l'a priori en disant que ce que je vois, c'est l'effet de la création. Oui, le souci philosophique, c'est à partir de la réalité la plus parfaite que je peux expérimenter, qui est la personne humaine, je me pose la question de savoir... Est-ce que la personne humaine est la réalité la plus parfaite que j'expérimente? Est-ce que ça suffit à la soif de l'intelligence qui cherche un premier? Mais ça, c'est le souci philosophique, donc de l'intelligence. Le souci de la foi, c'est recevant de Dieu ce qui m'entoure comme l'effet de sa création, connaissant le Créateur par une révélation, j'essaie de comprendre quel est le lien entre ce que je suis et ce Créateur, et de quelle manière je peux remonter vers ce Créateur. D'où l'effort de l'intelligence au point de vue théologique, de comprendre comment l'intelligence par elle-même, par les effets de la création, peut remonter au Créateur. Donc il est bien évident qu'il y a d'abord un jugement de foi qui me fait regarder la réalité qui m'entoure comme le résultat d'un acte créateur. Oui, ça me semble très important comme distinction. Donc vous voyez bien, je suis bien à l'intérieur de la foi quand je fais cette recherche. Et quand saint Thomas fait cette recherche, il est bien à l'intérieur de la foi. Parce que, oui, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui n'adhère pas à la révélation, se dirait, mais c'est un a priori. De dire que je vais passer des effets à la cause, en parlant d'effets, effets de la création, ça présuppose déjà d'avoir posé le Créateur. Vous voyez, ça c'est la petite question théologique. Et alors, pour simplifier, vous voyez, je vais essayer de simplement vous donner une petite clé de lecture pour ces cinq voies de saint Thomas. Je crois qu'on... Oui, je vais renoncer à l'analyse parce que, ou sinon ça prendrait, dans 2 heures, j'aurais toujours pas fini la première voie. Mais simplement essayer de vous donner une petite clé de lecture. Et cette petite clé de lecture, c'est ce que saint Thomas nous dit, quand il nous dit que nous connaissons Dieu par 3 modes. Le per modum causalitatis, le per modum negationis, le per modum eminentiae. Ce que je vous ai déjà expliqué la dernière fois. En comprenant que, oui, ces 3 modes de connaissance, donc connaître Dieu par mode de causalité, connaître Dieu par mode de négation, connaître Dieu par mode d'éminence, et ce sont des manières que je découvre à l'intérieur d'une recherche, ce n'est pas quelque chose que je pose a priori. Alors, si vous n'êtes pas dans l'élan de cette recherche, acceptez-le comme l'autorité de saint Thomas, qui commente Boèse dans le De Trinitate, mais si je parle principalement pour les frères, en essayant de comprendre qu'à partir de notre recherche de l'existence de Dieu, mais on découvre que automatiquement la deuxième manière de connaître Dieu, c'est par le mode de négation. Et après, par le mode d'éminence. et que la seule manière que de mon intelligence pour rejoindre sa source, c'est par un mode de causalité. Et c'est ce qui guide les cinq voies de saint Thomas. Alors, je pourrais vous les lire pour vous montrer ça. Alors, je vous laisse le faire, pour pas être trop long là-dessus. Quoique ce serait bon, mais pour être un peu bref. Et vous verrez, le souci de saint Thomas, c'est de raccorder les différentes manifestations des effets que je peux expérimenter à la cause première. Cette manifestation par le mouvement, par l'ordre du monde, par la contingence. Vous voyez, j'expérimente l'effet de la création de différentes manières. Je l'expérimente par le monde physique. Je vois que toute réalité est en mouvement. Oui, penser mouvement, c'est pas simplement vous prenez ce bout de papier puis vous le laissez tomber, il y a un mouvement. Oui, mouvement au sens d'altération. Donc passage d'un état à un autre. Donc ça peut très bien être un mouvement local. Bon, je précise au point de vue du langage philosophique. Et vous voyez, le souci de saint Thomas, c'est à travers l'expérimentation que j'ai de la réalité en tant qu'elle est effet de la création, ben, c'est de découvrir quel est le lien entre cet effet et le créateur. Et pour saint Thomas, c'est un lien de causalité. Oui, tout à fait. Et vous voyez, cet aspect de la causalité, c'est de découvrir que cet effet, qui est multiple, a un lien avec une source. Alors, la grande question pour comprendre la manière dont saint Thomas réfléchit, c'est comprendre ce lien sur quoi porte-t-il. Et on aurait très facilement tendance, à la lecture surtout des deux premières voies, c'est-à-dire la voie qui est liée au mouvement et qui est liée à la cause efficiente, on aurait tendance à dire que ce lien, il est dans l'ordre de la cause efficiente. Je m'explique. Vous voyez, vous avez un mouvement premier, vous constatez un mouvement. Qu'est-ce que fait votre intelligence au point de départ? Elle se dit, bon, ben d'où ça vient? Alors on cherche, puis on découvre le d'où ça vient. Puis quand on regarde un peu la source, ben la source aussi, elle est en mouvement. Parce que pour mouvoir, il faut être en acte, il faut être capable de mouvoir un autre, donc il faut être soi-même en mouvement, puis ainsi de suite. J'essaie de remonter à un premier. Ou sinon, une autre image qui, je crois, est encore plus parlante, que vous verrez avec la création. Vous voyez, quand je pense la création, je pense rejoindre un premier génétique, c'est-à-dire un premier qui a eu lieu dans des milliards et des milliards d'années. C'est-à-dire, je m'imagine, bon, moi je suis là, il y a mes parents, mes grands-parents, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il y a l'homme, après, l'ethnologie me montre qu'il y a, ou plutôt l'océanographie, ainsi de suite, me montre l'évolution de la Terre, des continents, ainsi de suite, l'apparition de l'homme, l'apparition des animaux, l'aspect de l'évolution. Et je crois que le point de départ de la cause efficiente, c'est ce qui est au commencement. Oui, je veux retrouver un commencement qui est dans l'ordre du temps. Et bien souvent, j'imagine le lien avec cette cause première comme quelque chose qui s'est passé dans des millions d'années. Vous voyez, dans l'ordre d'une cause efficiente. Et apparemment, saint Thomas a l'air de dire ça. Apparemment. Vous voyez, quand il parle du mouvement et quand il parle de la cause efficiente. Cependant, il dit cette petite chose, il n'est pas possible dans l'ordre de la causalité efficiente de remonter à l'infini. Parce que sinon, rien ne serait en mouvement. Oui, si vous remontez toujours, 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 et s'il n'y a jamais de premier, rien ne sera en mouvement. Mais la difficulté, c'est de saisir ce premier. Et ce premier, est-ce que je peux le saisir dans l'ordre du temps? C'est-à-dire, est-ce que la causalité du créateur sur la création porte dans l'ordre du temps? Voilà la question qu'il faut se poser. Eh bien ça, je ne peux en avoir aucune réponse dans l'ordre théologique. Aucune. Parce que je ne peux pas expérimenter ce premier génétique. J'en ai absolument pas l'expérience. Et alors ce dont saint Thomas va céder, alors c'est là où il faut faire un petit passage entre ce qu'on appelle le devenir et l'être. Alors pour ça, je vous conseille, parce que il me semble, si le père John Thomas me confirme, que comme cet après-midi c'est une question-réponse, je présume que c'est une question-réponse pour Dieu. Donc vous voyez, on pourra peut-être essayer de jongler là-dessus pour essayer d'un peu de faire fonctionner notre intelligence pour faire ce passage entre le devenir, donc ce premier que je cherche dans l'ordre du temps, et ce premier qu'on appelle dans l'ordre de l'être, ce qu'on appelle un acte pur. Alors bon, ça, prenez-le comme argument d'autorité pour l'instant. Je crois qu'on, si on peut, cet après-midi, pendant une heure, on essaiera de se délayer l'intelligence pour essayer de faire le passage entre la vie et l'être, le devenir et l'être. Mais je crois que c'est pas le lieu, parce que sinon on va se perdre dans des considérations qui nous feront oublier les attributs divins. Et alors, vous voyez, la grande question, c'est qu'est-ce qui va me permettre, dans l'ordre de la causalité, de rejoindre ce premier ? Eh bien, ce premier, dans l'ordre du devenir, il est complètement perdu. D'où l'apport de la philosophie qui va me faire comprendre que ce premier, je ne peux l'atteindre que dans l'ordre de l'être. Et dans l'ordre d'un être qui est en lui-même, non pas potentiel, mais actuel. C'est-à-dire un être qui n'est pas dans une indétermination, mais qui est dans une pleine détermination. Voilà l'intérêt. Et voilà ce que va dire le théologien. Le théologien va vous faire comprendre que c'est simplement par l'aspect actuel de l'être que je peux rejoindre ce premier. Oui, comme conséquence, je ne veux pas dire psychologique, mais sur le conditionnement de mon intelligence, ça me fait comprendre que je suis immédiatement relié à cette cause première, tandis que je ne suis pas du tout relié à ce premier génétique que j'imagine dans le temps. Qui fait que la création, elle est beaucoup plus proche de moi par l'être que par le premier génétique. Ce qui fait que j'ai un lien par la création beaucoup plus fort dans l'instant présent, parce que c'est simplement dans l'instant présent que je suis, parce que ce que je ferai plus tard n'existe pas encore et ce que j'ai fait n'existe plus. Oui, au point de vue du conditionnement de mon intelligence. C'est important de se dérouiller l'intelligence pour avoir un regard un peu précis sur ce qu'est la création, quel est mon lien avec le Créateur. Et ce lien avec le Créateur, il est maintenant. La création, je l'atteins maintenant. Je ne l'atteins pas dans un lointain qui me ferait découvrir un premier dans l'ordre des causalités efficientes ou dans l'ordre du mouvement. Voilà. Je crois qu'à partir de là, vous avez une clé de lecture de ces cinq voies. Alors, je vous laisse faire le travail pour éviter de... Mais vous voyez, surtout, je voudrais vous rappeler l'intention qui me semble primordiale. C'est une recherche que vous faites dans la foi. Et ça, c'est important. L'intelligence ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça, je dis plus ça pour les frères, qui, eux, ont une intelligence métaphysique tellement développée qu'ils se disent, mais bon, apparemment, ils partent d'un a priori. Vous voyez, c'est l'a priori de la foi, donc le jugement de foi qui reçoit la réalité extérieure comme l'effet de la création. Alors, vous voyez, maintenant, une chose qui me semble très importante, c'est de comprendre ce que je viens de dire, c'est pas simplement un discours sur Dieu. Et ça me semble très important. Oui, de comprendre que ce que dit le théologien doit immédiatement rejoindre votre foi. C'est pas dans l'ordre du discours, le discours d'une idée sur Dieu. Vous voyez, comme je pourrais vous parler de telle idée politique, de telle idée philosophique, puis bon, ben voilà, vous aurez une idée sur, je sais pas moi, le positivisme, vous aurez une idée sur l'hegelianisme, et ainsi de suite. Comprenant que, vous voyez, pour qu'il y ait recherche philosophique, il faut comprendre le lien qui existe entre ma foi qui reçoit la parole de Dieu et mon intelligence qui coopère à cette réception. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous voyez, on doit découvrir l'aspect vital. Mais j'emploie ce mot d'une manière volontaire, l'aspect vital est l'aspect nécessaire de la foi qui, à travers la révélation, s'interroge en disant « Mais comment faire le lien entre l'effet de la création et le Créateur ?» Et voyez, et cette interrogation, on doit la découvrir. Si on ne l'a pas, on doit se mettre à l'école de l'Écriture pour découvrir, voyez, que Dieu me manifeste, que mon intelligence et fait, à travers l'effet visible, de découvrir cette réalité invisible qu'il est. Et vous voyez, il y aurait le parallèle avec la philosophie. En philosophie, hein, vous voyez, quand on commence à vous parler, vous débarquez ici, vous n'avez jamais fait de philosophie ni de théologie, et puis au bout de 2 heures, on vous parle de la personne humaine, du dépassement de la personne humaine face à la multiplicité qu'elle représente, pour essayer que l'intelligence découvre une certaine unité, qui lui fait poser d'une manière nécessaire l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Alors vous voyez, quand vous en êtes là, vous dites, mais ouf, on tire la sonnette d'alarme, puis on se dit, bon, écoutez, parlons d'autre chose. Comment se fait-il que quand j'arrose, la plante, elle pousse? Vous voyez, et facilement, on se dit ça parce que... Vous voyez, on se dit ça parce que on n'a peut-être pas le lien immédiat de l'intelligence avec la réalité. Et en comprenant que, vous voyez, pour le philosophe, quand il parle de Dieu, c'est quelque chose qui se pose nécessairement pour son intelligence, lié à son expérience. Et pour que ça se pose à son expérience, il faut un certain chemin philosophique, qui est souvent très long. Ce chemin philosophique qui commence par l'expérience, qui commence par l'explicitation de son expérience, qui commence à découvrir la multiplicité de ses expériences, à ordonner ses expériences, à partir de ces expériences faire les différentes recherches par rapport aux multiplicités des expériences qu'il a, et ainsi de suite. Et à partir de là, vous voyez, une certaine connaissance de l'homme. Et pour ça, il faut du chemin, pour que ce soit une démarche immédiate de l'intelligence. Eh bien, il y a exactement la même chose pour la foi. Oui, pour la foi, il faut du chemin pour se dire, ben, tout d'un coup, ben, comment mon intelligence peut-elle, par la réalité visible, remonter au Créateur? Eh bien, ce chemin, quel est-il? C'est le chemin du croyant face à la révélation. Et ça, c'est très important pour, vous voyez, nos initiations à la théologie. Il ne peut pas y avoir de véritable initiation à la théologie s'il n'y a pas le contact de l'intelligence de l'homme. De l'intelligence, hein, comprenez pas la rationalité de l'homme. Oui, l'intelligence est le cœur de l'homme. C'est-à-dire l'homme qui reçoit la révélation et ce que dit cette révélation. Oui, c'est ça qui donne le moteur d'une recherche théologique. C'est ça qui fait naître une interrogation théologique. Vous comprenez bien, si vous prenez l'écriture et vous la lisez d'une façon purement empirique, ben dites-vous bien qu'au bout d'un certain temps, vous dites, bon, ben, les histoires, c'est beau. Vous voyez, souvent quand on lit l'Ancien Testament... Après, on écrit un livre et on appelle ça l'histoire sainte. Vous voyez, on a tous eu ça, hein, quand on était petits, les petits livres d'histoire sainte. Et on réduit la révélation à l'histoire sainte, donc la petite histoire. Bon, il y a eu Adam et Ève, il y a eu Abraham, Isaac et Jacob, il y a eu Noé, les juges, puis il y a eu des grands rois, puis ça a mal fini, puis après il y a eu les prophètes pour réveiller tout le monde. Puis à partir de là, bon, ben, le Christ est venu. Et très souvent, il reste de la lecture de l'écriture une petite histoire. Oui, ce qui s'est passé. Tandis que, vous voyez, l'important de la théologie, c'est découvrir que, vous voyez, je dois coopérer à cette révélation. Et cette petite histoire, hein, c'est... doit me faire comprendre que quand Dieu se donne à l'homme, il permet à l'homme de le dire. Ah. Vous voyez, c'est quand Dieu se révèle à l'homme, il permet à l'homme de le dire. Et ça, c'est tout le statut de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas un livre qui est descendu comme ça tout seul. Puis paf, le livre était ouvert à Ézéchiel 4, 33, puis paf, voilà. Vous voyez, c'est Dieu se communique à l'homme pour que l'homme puisse le dire. Et à partir de ce moment-là, c'est, vous voyez, il y a un lien de coopération entre l'homme et Dieu. Ce n'est pas simplement une pure passivité. Et bien, vous voyez, il y a exactement la même chose entre nous et la révélation, cette révélation qui est et l'écriture et la tradition. Donc, vous voyez, je dois me mettre au service de cette révélation pour me permettre de recevoir davantage Dieu. Et ça me semble essentiel. Vous voyez, c'est ce qui donne un petit peu l'énergie de la foi. En comprenant que ce n'est pas une énergie intellectuelle, hein, ce n'est pas une énergie rationnelle. C'est l'énergie du cœur. Alors, pour ça, je crois que, vous voyez, on doit comprendre d'une manière plus profonde ce qu'est le statut de la foi. Oui, la foi face à l'écriture. Oui, la foi, c'est pas simplement une connaissance de l'écriture comme je connais le manifeste du parti. C'est pas ça, la foi. La foi, c'est je connais l'écriture comme l'écriture qui est la révélation d'une personne, et cette personne, c'est Dieu. Donc vous comprenez bien, je lis pas l'écriture comme un écrit. Je devrais lire l'écriture comme la lettre d'un ami. Donc il y a une pertinence beaucoup plus forte. Il y a un lien beaucoup plus vital entre moi et l'écriture qu'entre moi et le manifeste. C'est bien évident, parce que le manifeste, ça touche d'une manière accidentelle ma vie. Tandis que cet ami qui se révèle à moi et qui est Dieu, touche d'une manière essentielle ce que je suis, parce qu'il m'apporte le salut. Et ce salut, il me communique à travers sa parole et à travers ses gestes. Donc vous comprenez bien que la vitalité théologique, Mais je vais la comprendre du fait de cette unité avec cette personne qui se donne à moi. Et cette unité me permettra de découvrir ce qu'il me révèle. Vous voyez, quand on se dit, mais je comprends pas, bon, ça a déjà bien commencé par Dieu, mais alors là, je comprends rien du tout. Je vais me dire, c'est pas possible. Tout à l'heure, la création, puis après la Trinité, alors là, pas possible. Je prends le TGV. Et on aurait la tentation de se dire ça parce que on voudrait réduire la connaissance théologique à une connaissance humaine, une connaissance scientifique. Tandis que la connaissance théologique est complètement différente comme mode de connaissance. Vous voyez, je peux découvrir la vitalité de cette connaissance uniquement si j'ai une connaturalité, c'est-à-dire si j'ai une unité avec celui qui se donne. Et celui qui se donne, pour moi, c'est le Christ. Oui, c'est ce qu'on dit, hein. Plus vous serez saint, donc plus vous chercherez cette unité avec le Christ, plus vous aurez cet éveil de l'intelligence par rapport à la révélation. Donc comprenons, ce n'est pas simplement un effort de rationalité, hein. On va se dire, bon, on va faire compliqué parce que ça fait bien de faire compliqué. Ce n'est pas du tout ça. Même si c'est compliqué, il faut découvrir dans les aspects compliqués le lien profond entre mon intelligence qui reçoit la parole de Dieu. Alors si vous n'en êtes pas du tout là, moi je vous invite à une seule chose, c'est de vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et je crois que c'est la première chose, vous voyez. Il n'y a pas d'initiation théologique s'il n'y a pas d'écoute par rapport à la parole de Dieu. Il n'y a pas de théologie tout court s'il n'y a pas d'écoute par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire un théologien qui ne fait pas l'exio divina, sa théologie ne devient que spéculative. D'où certaines distinctions qu'on peut connaître et qui, en fin de compte, ne nous parlent absolument pas du tout de Dieu, mais mécaniquement nous disent certaines choses. Et on garde simplement l'armature rationnelle de la théologie. Tout le discours, et le discours un peu académique. Et je crois que c'est la première chose à faire, vous voyez. Et il me semble qu'à partir de là, on comprend que la théologie nous engage. Oui, on voit bien, quand je suis scientifique, je fais des études scientifiques 8 heures par jour. Au bout de 8 heures, ça y est, c'est terminé. C'est fini. Voilà, c'est terminé, il est l'heure, mon travail c'est fini, je rentre chez moi, puis je fais autre chose. Eh bien, je ne peux pas dire ça pour la théologie. Je ne peux pas dire, bon, mais ça y est, j'ai effacé de théologie aujourd'hui. Sauf, bien sûr, si je comprends la théologie comme le travail spéculatif sur tel ou tel texte. Mais si je comprends la théologie comme l'interrogation du croyant face à la révélation que Dieu me fait de lui-même, eh bien, je ne peux pas dire, ça y est, c'est fini. Mais c'est comme si quelqu'un qui aime une autre personne dise, bon, aujourd'hui il est 8 heures, c'est terminé, je rentre chez moi, on ne s'aime plus. Puis on recommencera demain matin. Vous voyez, il y a exactement la même chose avec la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que je fais de la théologie, vous voyez, simplement en étant ici. Vous voyez, le propre d'une initiation à la théologie, c'est découvrir que toute notre vie réclame de faire de la théologie. Parce que toute notre vie réclame de nous mettre au service de la parole que Dieu nous donne. Et c'est ça, radicalement, la théologie. Après qu'il y ait une élaboration qui soit un peu plus formelle en vue d'une communication, ça c'est autre chose. Mais vous voyez, le but de cette initiation, ce n'est pas l'élaboration formelle en vue de la communication. C'est de réveiller notre sens de la foi par rapport à la révélation. Donc par rapport à l'écriture, par rapport à la tradition. Et l'écriture qui implique aussi les gestes de Christ, donc qui implique les sacrements. Qui implique de notre part un investissement qui est la prière. Et qui est de chercher la présence du Christ. Ça me semble important pour comprendre un petit peu ce qu'on veut dire à travers initiation théologique. Et comprendre que même si vous partez encore plus pauvre, eh ben, moi je dis tant mieux. Parce que vous partez avec une soif de rencontrer le Christ à travers l'Écriture. Et c'est ça l'intérêt. Donc plus on part pauvre, mieux c'est. Plus vous partez avec des concepts en vous disant « ça y est, j'ai compris le concept de la non-régression à l'infini dans la lumière de la causalité finale qui éclaire la cause efficiente », c'est très beau. Mais si ce n'est pas relié à votre écoute et à votre accueil de la parole de Dieu, je ne crois pas que ça porte du fruit. Parce que ça, vous ne pourrez jamais le communiquer. Ce que vous communiquerez, c'est votre accueil du Christ à travers sa parole. Alors maintenant, on va revenir au labeur théologique. Alors maintenant, la grande question, vous voyez, c'est à partir de l'existence de Dieu, qu'est-ce que je peux dire sur lui ? Voilà, c'est la deuxième interrogation. Sachant qu'il existe, qu'est-ce que je peux dire sur lui ? Et pour ça, je me servirai, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, oui, du permodum negationis, donc du par mode de négation. Et la seule manière de comprendre ce qu'est Dieu, c'est pas comprendre ce qu'il est, mais c'est comprendre ce qu'il n'est pas par rapport à ce que je peux expérimenter. Et ça, c'est ma seule manière de comprendre ce qu'est Dieu. Et vous voyez, et c'est très important ça, pour avoir une certaine purification de notre intelligence quant à notre regard sur Dieu. Parce que, puisque je n'ai pas une connaissance directe de ce qu'est Dieu, je ne peux avoir qu'une connaissance médiatisée, donc par ses effets. Donc ses effets me disent quelque chose de ce que lui est. L'effet porte toujours quelque chose de la cause. Mais cependant, il faut voir si tous les effets, je peux les attribuer tels quels à ce qu'est Dieu. Et c'est là où fonctionnera d'une manière très forte le principe de négation. Parce que d'une manière négative, tout ce que je constate dans la réalité qui implique une imperfection, je vais l'attribuer à Dieu. D'une manière négative, tout ce que je constate dans la réalité qui implique une limite, je vais l'attribuer à Dieu. Et vous voyez, et c'est seulement ça qui me permettra de faire une distinction qui est très importante pour une lecture de l'écriture, c'est de faire la différence entre les anthropomorphismes, excusez-moi pour ce gros mot, c'est-à-dire, oui, toutes les images que j'emploie pour parler de Dieu, qui sont des images humaines, et ce qu'est Dieu réellement. Alors le théologien va employer encore un mot qui est encore plus compliqué, il va parler d'analogie propre et d'analogie métaphorique. C'est-à-dire, il va parler d'image, vous voyez, pour... pour ça que je vais simplifier le langage. Vous voyez, il va parler d'image qui me parle de Dieu d'une manière imagée, d'une manière symbolique, et des images qui touchent quelque chose de réel en Dieu. Oui, c'est sûr que, et vous voyez, pour vous montrer la différence entre une analogie propre et une analogie métaphorique, vous voyez, quand on vous dit le bras de Dieu, j'espère que vous n'imaginez pas que dans le ciel, Dieu c'est un bras. Vous voyez, pour pousser un petit peu. Le bras de Dieu. Mais par exemple, quand on vous dit que Dieu est amour, ah, c'est quand même différent comme attribution. Quand j'attribue le bras à Dieu et quand j'attribue l'amour à Dieu. Et quand on attribue au Christ, vous voyez, je suis la porte. Vous voyez, c'est différent que quand on dit quand le Christ dit « Je suis la résurrection ». Une petite différence quand même. Vous voyez, l'attribution porte et l'attribution résurrection ne portent pas sur la même chose. Vous êtes d'accord? N'imaginez pas le Christ comme une porte. Non, porte signifie quelque chose, c'est ce par quoi je rentre dans le lieu qui m'est promis. Et c'est comme ça que je dois interpréter « Je suis la porte ». C'est bien évident, vous ne dites pas, bon, le Christ la porte, alors vous dessinez une porte, et comme l'enfant lui demande de dessiner un poisson, il dessine le carré de poisson surgelé. Et c'est très important de faire ces différences dans l'écriture. Et pourquoi c'est important? Parce que ça me permet à Dieu de se donner dans toute sa radicalité. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle la purification active de l'intelligence. C'est-à-dire moi-même qui peux me purifier pour recevoir davantage ce qu'est Dieu. Parce que vous comprenez bien que Dieu, en se communiquant par un langage, se met à la portée de l'homme. C'est bien évident. Il utilise, il épouse le langage de l'homme. Donc il épouse les significations humaines. Cependant, je dois comprendre que Dieu n'est pas renfermé dans la signification que l'homme donne de ce langage. Donc j'ai besoin que mon intelligence puisse découvrir ce que Dieu veut me manifester de lui. Donc de purifier en moi tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas Dieu. Et ça, c'est très important pour notre regard sur l'écriture. Et vous voyez, hein, premier anthropomorphisme qu'on voit dans l'écriture, c'est Dieu qui se promène dans le jardin. Puis il fait du bruit. Alors souvent, c'est selon une certaine méthode hein, qu'on connaît tous, méthode en premier point, on imagine la représentation biblique. Deuxième point, on imagine les personnages. Troisième point, on se met dans la peau du personnage principal. Vous voyez cette méthode. Et à partir de là, vous voyez, on se dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu se promène. Mais vous voyez, je ne crois pas que c'est ce que veut me communiquer l'Écriture. Je ne crois pas. Ah, vous voyez, donc on a besoin de cette intelligence pour découvrir ce qu'est Dieu quand il se donne. Alors pour ça, il y a deux manières de faire. Il y a deux manières de faire, et on va essayer de faire les deux si on a le temps. Il y a une manière un peu plus théologique, qu'on appellerait une théologie plus scientifique. Et il y a une manière plus biblique. Cette manière scientifique, c'est regarder dans la lumière de cet être premier que j'ai découvert, ce que je peux dire de lui à travers les effets que je connais. Et de deux manières, par la négation, et on verra après, par l'éminence. Par la négation, je dirais ce qu'il n'est pas. Par l'éminence, je le qualifierai. Puis l'autre manière, c'est à travers une théologie qu'on appellera théologie biblique, c'est de me mettre à l'écoute de l'Écriture pour essayer de regarder deux choses. Ce que Dieu me dit de lui-même et ce que l'homme dit de Dieu dans l'Écriture. Et à partir de là, regarder dans tout le devenir de la révélation, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donc l'alpha et l'oméga, regardez la manière dont Dieu dans la révélation se manifeste. Et quels sont les attributs que la révélation me donne de Dieu? Quelles sont ses qualités? Voilà les deux manières par lesquelles on peut parler. Des attributs de Dieu. Alors il y aurait une autre manière qui serait là. Je vous laisse le faire dans la prière. C'est la manière d'une théologie mystique. En comprenant que par une théologie mystique, dans la lumière de la présence de grâce que je peux vivre par la foi, l'espérance et la charité, je peux découvrir d'une manière beaucoup plus personnelle. Non plus dans l'aspect formel de la révélation, mais dans l'aspect du lien d'amour que j'ai avec cette personne, ce qu'est cette personne. Et ça réclame, de la part du théologien qui fait une théologie mystique, un regard de contemplation sur la personne qui se donne. Alors là-dessus, le père Philippe a fait quelque chose une année chez les sœurs de Bethléem, pour ceux qui connaissent ce petit livre, où justement, il regarde dans la lumière de la vie chrétienne les attributs divins. Et ça, ce serait le troisième regard, ce serait le regard ultime. C'est le regard qui me nourrirait le plus. Mais cependant, il faut accepter que ce regard, on ne puisse pas l'avoir immédiatement. On peut l'avoir immédiatement quant à tel ou tel point de vue, mais on ne peut pas l'avoir immédiatement quant à sa totalité pour le communiquer. Et c'est le regard qu'on doit essayer d'avoir. Vous comprenez bien, ce qui est plus intéressant, c'est dans cette manifestation personnelle que le Christ, vous voyez, fait dans ma vie, c'est dans cette manifestation que je dois découvrir quel est le visage de Dieu. C'est là que je découvrirai l'aspect le plus vital, parce que c'est sous l'angle de la charité. Parce que par la charité, oui, par la grâce, que dit saint Pierre, je suis participant de la nature divine. Donc par la grâce, j'ai un principe de connaturalité avec Dieu, qui me permet d'avoir une connaissance beaucoup plus intime du mystère de Dieu. Et c'est la connaissance que je dois essayer d'avoir d'une manière quotidienne à travers l'oraison, à travers la prière, à travers l'écoute de la parole de Dieu. Vous voyez, ça c'est la fin ultime vers laquelle je dois tendre. Cependant, j'ai deux petites choses qui peuvent m'aider. Le regard sur l'Écriture, d'un point de vue biblique, tout l'aspect de l'économie, entendu comme le devenir de la révélation, et l'aspect plus scientifique, dans la lumière de la cause première. Alors, si on commence par le premier point de vue, on est dans un Un souci un peu plus scientifique. Regardez la lumière, la cause première dans la lumière des effets que je peux expérimenter. Et la première chose qui est manifeste, c'est que toute réalité implique une composition, implique une multiplicité. Cette multiplicité, elle porte sur différentes choses. Elle porte aussi bien sur la partie et le tout, sur la puissance et l'acte, sur la matière, la forme. Et principalement, je la découvre par le devenir. Alors la question qu'il faut que je me pose, est-ce qu'en Dieu, il y a cette multiplicité? Est-ce qu'en Dieu, il y a cette composition qui est souvent due au devenir, qui est toujours due au devenir? Est-ce qu'il y a une antériorité, une postériorité? Et je crois que radicalement, c'est la première chose que je constate dans la réalité. Dans la lumière de l'acte créateur, comprenons. Pas dans une expérience humaine immédiate. Donc dans ce sens-là, c'est une expérience seconde. Et donc je découvre que toute réalité implique une composition. Et deuxième chose, je découvre que la perfection de la réalité implique une très grande complexité. On voit bien la perfection humaine quand on dit que l'homme c'est l'animal le plus parfait. Et on l'appelle cathédrale de molécules. Il faut constater que la perfection humaine, elle se réalise dans une très très grande complexité. Et tandis que les éléments fondamentaux, les éléments que je peux expérimenter qui sont simples, implique une très grande imperfection. Et ça me fait comprendre, vous voyez, deux manières de regarder les effets de la création. Quant à la composition, cette composition qui implique une complexité et qui implique aussi une perfection. Et bien en Dieu, je dois comprendre que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et je dois comprendre qu'en lui, première chose, il ne peut pas y avoir de composition. Alors j'aurais besoin de regarder toutes les compositions que je peux expérimenter. Et la composition de la matière et de la forme. La composition de la puissance et de l'acte. La composition de l'antériorité
Je perds mon fil.
Oui, la composition de... Oui, du temps, si vous voulez. Et aussi la composition dans l'ordre de la partie et le tout. Je me rends compte que même ce que je suis, même mon corps, fait partie d'un tout, qui est l'univers, et qui a des liens d'interdépendance. Vous voyez, il faudrait regarder toutes les compositions qui sont expérimentables dans la création et comprendre que Dieu exclut toutes ces compositions. Et que par là, je peux affirmer une première chose de Dieu, c'est qu'il est infiniment simple. Et chose très importante, c'est que cette simplicité, elle ne s'oppose pas à la perfection, contrairement au mode humain de perfection. Et je vois bien que la perfection dans la réalité, elle est liée à une complexité. Tandis que la perfection de Dieu, elle est liée à sa simplicité. Et ça, c'est un regard négatif qui me dit ça par rapport au réel. Vous voyez, d'une certaine manière, j'ai besoin, et je crois que la chose la plus radicale dont j'ai besoin de me séparer, c'est toutes les compositions qui sont liées au devenir et au mouvement. Vous voyez, par exemple, quand je dis que Dieu se met en colère, puis après Dieu calme sa colère. Quand je dis que Dieu marche dans le jardin. Ou par exemple, on voit ça avec Noé. Il y a un moment, il est en colère, pas possible, puis à la fin, il regrette. Alors, qu'est-ce que j'introduis en Dieu? Est-ce que j'introduis un devenir? Voilà, est-ce que je peux introduire un devenir en Dieu? Bon, on y reviendra.